Retour à la ferme. Je ne fais rien de bon avec mes promenades sur les chemins de la ferme Lalande. Et pourtant je continue, comme l'un de ces fantômes qui reviennent sans que l'on sache où ils vont ni pourquoi. J'ai aperçu ce que j'ai d'abord pris pour la lèvre d'un cratère, mais c'était l'arc de soubassement du dôme. J'erre alentour, n'osant pas m'approcher de ces ruines d'où la vie a fui dans un cri énorme. Je force mon courage. J'approche et je tâche de me repérer. Ici, c'était le ressaut central, c'est certain. Et là, cet orbe noir sous un grand pan de duraglace brisé, la flaque. Ici, peut-être, le spectre de la glycine. Il est difficile de savoir. Une dépressurisation est un cataclysme qui arase le passé. Entre deux volets chus de 100 mètres de hauteur, mes pieds foulent une cendre qui était de l'herbe, du fenouil. Ils éparpillent les frêles fantômes des courgettes, dont les courbes ont survécu je ne sais comment. Semblable au panier de côte des squelettes. En voilà un, d'ailleurs. C'est une oie, je crois, plumée et éviscérée par le souffle. Et là, protégée par une épine de basalte, fraîche et comme vivante, une vrille de vigne s'agrippe encore de ses doigts plats à un support disparu. Le myrte funèbre, émergeant en buisson entre deux éclats de dôme, séché par le vide et rôti par le froid, s'éparpille sous ma paume en cristaux noirs. Voici des plumes infimes de rossignol, et la trace de la mousse que laisse le sang quand il bout dans le vide, ou la sève. Hélas et hélas, mon lin si bleu et toutes mes abeilles. Vengeance, vengeance. Tout ce désastre en miettes, cet océan de débris qui furent vivants et que le vide a vitrifié, que le froid pétrifie, que le soleil achèvera, crie vers moi. Vengeance. Hélas, mon beau jasmin et la tiédeur de la rocaille. Ici, sûrement, la Königin d'Hermond. Je n'arrive pas à trouver trace de la forêt. Elle est ensevelie sous un amas de décombres vitreux. Ce sentiment-là, je le découvre. Je sais son nom. C'est l'angoisse qui m'accompagne désormais, acide et hérissée. Elle a le goût de l'ombre de Trim. Regardant vers le sud, j'ai vu déferler une marée sombre. Elle avançait avec vélocité, noire sur le sable gris. Des furets, encore. Ce n'était que des blottes. Je suppose qu'elles ont été envoyées ici par la cité de Mute pour recueillir les graines sur le sol, s'il en reste. Et dresser un tableau du cataclysme. Et évaluer les coûts aussi, je parie. Je suis allée au hangar d'Achéron chercher un émetteur d'impulsion magnétique et j'ai balayé le terrain. Les blottes survivantes n'ont pas tardé à repartir. En disséquant quelques-unes d'entre elles, j'ai découvert de fines capsules d'acide acétique. J'ai compris que les blottes avaient pour mission de grimper sur moi et de me dissoudre avec ces capsules si elles parvenaient à m'atteindre. Je m'imagine ce moment. Je me figure un monticule grouillant, haut comme moi, en train de fondre et de s'affaisser. Je vois ce monticule sous lequel ma chair se disperse et la peur m'envahit. Ma propre faim est une bulle de terreur pure. Pourtant, qu'est-ce que j'ai à perdre désormais? Au-delà du désespoir, l'effroi de quitter mon unicité demeure. Tout homme qui meurt, meurt à grande douleur. Me voilà comme chacun aujourd'hui. J'envisage ma fin comme une implosion, où le « je » qui regarde est celui qui se dissout et ce regard de se dissoudre jusqu'à ce que la dissolution ait aboli son regard. Je n'y vois qu'un atroce vertige empli d'un cri grand comme le monde. Je ne me décide pas à quitter le site de la ferme. J'interroge les ruines, je questionne les épaves, je leur demande où sont passées les coccinelles, si elles n'ont pas vu la lentille d'eau. Je lève les yeux au ciel et je lui réclame mon oxygène, ma brume et mes oiseaux. J'ai retrouvé les herbeaux, quelques-uns d'entre eux. Ils se sont rassemblés, réactivés, et ils sont venus à ma rencontre. Brinque-ballant dans le vide, penchés, abîmés, ils sont venus à moi. Il y a même l'herbeau des fraises qui porte encore sa réparation toute fraîche. Tournant en rond autour de moi, je crois que ces herbeaux attendent mes ordres. Mais je n'en ai plus à donner. L'un des herbeaux, un rempoteur, m'a tendu un objet qui l'a sauvé du désastre. Le keepsake, confié par Madame Veuve Ntoto. J'ai regardé à nouveau ce keepsake. C'est un album de fleurs séchées et de clichés photographiques sur carton daté de 1903 à 1909. Il est fabriqué en papier d'arbre jauni, avec des intercalaires en papier de soie qu'on soulève d'un doigt et qui retombe comme une aile. Il est titré « Petit Paul », en grosses lettres rondes, soigneusement calligraphiées sur la couverture. Hélas, pauvre Madame Veuve Ntoto. Je ne lui ai pas rendu son keepsake à temps, mais qui s'en soucie? Petit Paul, c'est le petit garçon d'une famille, Deux parents, un chat, un chien, des grands-parents, une tante et un oncle. Petit Paul est un bambin d'un an, puis deux, puis trois. C'est un poupon sérieux avec un béguin blanc, qui serre dans sa main un grand hochet, puis un garçonnet rieur qui commence à montrer des dents de lait. On a noté, toujours d'une belle écriture ronde, ses mots d'enfant, sa croissance, ses desserts préférés. On a collé ses dessins, des cœurs en dentelle, des images pieuses et les fleurs séchées que Madame Veuve Ntoto voulait me confier. J'ai l'image d'une maison de famille un peu triste. Il n'y avait que peu d'éclairage à l'époque, mais qui sent bon la tarte aux pommes. Dans cette maison, Petit Paul est le rayon de soleil. D'abord parce qu'il porte en lui tout l'avenir, des études, une carrière, une famille, des petits-enfants, l'air du dehors et la joie du dedans. Mais aussi parce qu'il est là, tout simplement. Il faut s'en occuper, l'empêcher de se jeter du haut de l'escalier ou de manger la pâtée du chien. Mais surtout, il est charmant. Il sourit d'un rien, il rit de n'importe quoi, il se lève tôt, il a faim de groseille, de câlins, de soleil. Il exige tout, bouleverse tout, prend tout le monde dans ses bras, assouplit les raideurs, les prudences, les réserves, les habitudes. Il court en tous sens, demande des comptes à la pluie, tire la queue du chat qui endure, s'accroche au cou du chien qui bave, se suspend aux moustaches, froisse les bonnets, démonte les chignons, éclate de rire et embrasse les joues qui se tendent. Il a la fougue d'une source fraîche qui déplie les pétales desséchés des vieux cœurs. Petit Paul est au centre du keepsake. Petit Paul, c'est l'avenir et le présent. C'est la vie même. Un matin, vous vous levez. Vous vous penchez au-dessus du lit à barreaux et vos doigts touchent un front brûlant. Petit Paul a les joues rouges. Ses yeux brillent dans l'ombre. Il gémit. Il ne bouge plus, lui qui est d'habitude si vif, si impatient. Le docteur vient. Il parle de scarlatine, de diphtérie, d'appendicite, de chaud-froid. Il prescrit des sirops, des cataplasmes, une poche de glace. Vous vous installez au chevet de Petit Paul. Les heures passent, les jours passent. Petit Paul roule sa tête sur l'oreiller, il gémit toujours. Parfois, il paraît aller mieux. Il dort, la fièvre le quitte. Mais elle remonte le soir. Petit Paul n'est plus rouge mais très pâle. Son visage se creuse, alors le docteur revient. Il prescrit des vésicatoires, des sangsues, des frictions. Il a l'air sombre. Petit Paul semble rétrécir. Son visage s'amenuise. Il se perd dans les draps et vous les changez souvent, ces draps trempés de sueur. La légèreté du corps de Petit Paul vous horrifie quand vous le soulevez. Sa respiration ronfle sombrement entre vos bras. Dans votre âme, à l'angoisse succède la peur et, à la peur, la pesanteur d'une horrible certitude. Le docteur revient. Il ne dit plus rien. Petit Paul se plaint à bas bruit, mais en continu. Parfois, il essaie de vous sourire. Il s'accroche à votre main de toutes ses forces, mais des forces il n'en a plus. C'est vous qui vous accrochez à lui, comme à une bouée qui dérive, et vous priez pour qu'elle vous emporte, vous. Comme vous ne dormez plus, vous piquez du nez dans votre fauteuil et vous vous réveillez en sursaut. Vous trouvez sur l'oreiller un visage encore plus petit, encore plus pâle, dont les yeux caves dessinent un autre visage. Ça ne fait que quelques jours, mais déjà Petit Paul n'est plus qu'un souffle, à peine une respiration et, au bord des paupières, le reste d'un regard. Le drap fait tout juste relief, se soulève d'un cil au-dessus de la poitrine de Petit Paul. Vous relevez Petit Paul, vous le frictionnez encore, puis vous arrêtez pour ne pas le fatiguer. Surtout ne pas le fatiguer. Il faut qu'il se repose. Vous lui faites avaler des cuillerées de bouillon, une par une. Sa tête roule contre votre bras. Le bouillon coule sur le bavoir. Vous dites « C'est bien, c'est très bien, il faut reprendre des forces. » Mais Petit Paul semble ne pas entendre. Son nez est pincé, ses cheveux collent à son front, il est tellement amaigri. C'est peut-être la rougeole, peut-être la tuberculose, peut-être une pneumonie. Il faudrait qu'il lutte encore, mais son mal est si grand et lui, si petit. Le docteur ne prescrit plus rien. Vous préférez ça. À l'auscultation, voir les côtes saillantes de Petit Paul et ses trop gros genoux vous navraient le cœur. La respiration de Petit Paul s'affaiblit encore. Il est tout à fait ailleurs, il ne bouge plus du tout. Vous êtes penché sur lui et c'est le battement d'une aile de papillon. Il s'est absenté. Une seconde, le soulagement vous envahit. Il a l'air lui-même si soulagé, celui qui était Petit Paul. Son corps crispé par le combat se relâche, son visage se détend, ses yeux se rouvrent même un peu. Sur son front, une boucle se détache et se relève comme une virgule. La fièvre le quitte, elle aussi. Et c'est toute votre vie qui s'arrête. Beaucoup, beaucoup plus tard, vous terminerez ce keepsake par une rangée de grosses larmes noires. Non que ça vaille la peine de traîner encore ici, sur cette terre sans printemps. Nourrir le chien, brosser le chat, éplucher les pommes, pour qui? Ce keepsake, c'est tout ce qui reste de petit Paul. Or une tombe que la mousse recouvre déjà, et dessous, une boîte qui renferme une chose à laquelle vous ne pensez jamais. Car qui pense au travail horrible que sont forcés d'accomplir, après la mort, ceux qu'on aime? J'ai lu le keepsake à la lumière des étoiles. Je l'ai relu, les feuillets de soie se brisant et s'éparpillant en paillettes sous mes doigts. J'ai vu, j'ai ressenti, j'ai éprouvé. Il me semble que j'ai accompli tout le chemin possible vers les derniers instants de Siléki et de Trim, dont j'ai été privé. Les mots sont des ponts, les mots sont des passages, les mots sont des mains qui se tendent et vous tiennent au-dessus du vide. Je crois que j'ai mieux compris pourquoi les terriens étaient si impitoyables, si méchants, si incohérents. Face au destin cruel qui attend toute chair périssable, la moindre affection se transforme inéluctablement en enfer. Je regarde beaucoup la terre couverte d'un épais nuage gris et où l'on ne voit plus aucune lumière briller depuis longtemps. Une phrase me revient en mémoire. Merci d'éteindre la lumière en partant. C'est au moins une chose que l'on pourra dire des terriens. Ils ont éteint la lumière en partant. Voilà une épitaphe bizarre. Je regarde la voie lactée aussi. Sirius, Rigel, Altaïr. L'immense grappe brille à ma soif de désastre. À mes pieds, je sens l'ombre de Trim qui s'étire. Et quand je baisse les yeux, je ne trouve personne. Aussi, je les garde levés très longtemps.